Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develay-Mazurel, Laure Alary.
Bonjour à tous. Il est des histoires et des paroles entendues hier qui aujourd'hui, en plein désordre du monde, résonnent différemment. Depuis 2 semaines, pour notre série En retrait du monde, on interroge notre drôle d'époque en puisant dans les récits d'ermites japonais du XIIIe siècle ou de philosophes écologues du XIXe qui, de cabane, en voyage solitaire, ont incarné et défendu la simplicité volontaire et le retour à la Terre. Cette semaine, on a eu envie de prolonger la réflexion, en reportage cette fois, en vous faisant réécouter une expérience, un élan communautaire sur lequel Sarah Lefebvre s'était penchée il y a 2 ans, à l'occasion des 50 ans d'un autre printemps entré dans l'histoire.
En mai 68, mes parents étaient très inquiets, ils avaient peur d'une guerre civile et ils pensaient même nous envoyer à la campagne. Donc on sentait bien qu'il se passait quelque chose, mais on ne savait pas trop qu'est-ce que c'était réellement.
La dernière barricade maintenant.
On écoutait la radio et on entendait parler de barricades, de manifs, de grèves, etc.
C'est nous la barricade !
Sur le bout de miche, il y avait plein de monde, il y avait des gens qui distribuaient des tracts, il y avait des orateurs perchés sur des barrières pour dire leur discours politique, etc. Enfin bref, une espèce de fête, de foire, quoi. Et puis tout d'un coup, il y a eu une descente de CRS.
Attention ! Attention !
Et je me suis pris un grand coup de matraque. Eh ben, ça, je dois remercier le CRS qui m'a donné ce coup de matraque parce que ça a fait basculer ma vie. Parce que ben, j'ai écouté ce que racontaient tous les gauchistes, etc. Et ça a été le début d'un changement radical dans ma vie.
Puis après, on est parti à la campagne. Vraiment, on ne supportait plus.
Si l'ordre est rétabli, tout est possible. Si l'ordre n'est pas rétabli, rien n'est possible.
Parce que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'était quand même une société qui était très rigide, très moraliste. Ça nous étouffait complètement. Mais je ne savais pas que ça m'étouffait. Je l'ai compris à ce moment-là.
Le rêve, c'était de vivre économiquement dans un lieu qui était nature. Et après, c'est des terres de possibles. Hein. Et depuis l'époque médiévale, les Cévennes, ce sont des terres de possibles. Donc pour les 68 arts, c'était aussi la possibilité d'être en communauté. Et ce rêve aussi, c'est possible. Ouais.
En mai 68, ils ont demandé l'impossible et l'ont trouvé, ou rendu possible, quelques années plus tard, dans les Cévennes, au sud de la France, en Ardèche notamment. À l'époque, après l'insurrection de mai 68 qui a embrasé la France gaulliste, de jeunes citadins, déçus par les suites données au mouvement, vont partir à la campagne pour bâtir un autre monde, plus proche de la terre et loin de la société de consommation. Parce que le monde d'après s'est déjà joué, pour certains, il y a plus de 50 ans, voici, sous les pavés de la terre, un reportage de Sarah Lefebvre.
On a bitumé la chaussée pour faciliter la circulation. Les trottoirs, c'est pour nous, la rue est à nous.
Moi, j'avais une vie vraiment pas gaie à Paris. Je suis arrivée, je connaissais pas grand monde et puis j'étais paumée, j'étais seule. Et j'ai rencontré une nana qui était plus hardie que moi, puis plus mûre et tout. Donc, elle aimait voyager, tout ça. Alors, on partait en stop. Et on est parti au printemps en Bretagne. Et tout d'un coup, à Nantes, on prend un bus et puis on voit un journal « Révolution, quartier latin ». Ah bon ? Nous, on n'avait rien vu venir. Mais alors là, nous, on est revenus illico. Hein. On n'est pas allé à Quiberon. Elle m'avait promis que c'était super Quiberon. J'ai jamais vu Quiberon, pour finir. On est revenus illico en stop. Et on est arrivé de nuit, je me rappelle. On a marché dans le quartier latin qu'on connaissait bien, puisque on était, nous, à la Sorbonne. Hein. Alors bon, quand il y a eu la nuit des barricades, j'entends ça à la radio, et puis j'hésitais. Hop et hop, je suis allée au quartier latin.
À votre avis, pourquoi on met pas Jean-Paul Sartre en prison ? Pas de répression, chacun son poste.
Moi, c'est Martine Nivon, j'ai 71 ans.
Moi, je m'appelle Pierre Buchberger. Moi, je suis né en 1947, donc aujourd'hui j'ai 71 ans à peu près.
Qu'est-ce qui vous fait aller de mai 68 aux Cévennes ?
Le travail, c'est pas rigolo. Le travail qu'on nous propose est pas rigolo. En ville, il faut avoir du pognon. Dans les rues, ça pue. Et pas rien que traverser le pont sur le périphérique me donnait des crampes d'estomac, quoi. Donc il fallait vraiment partir, quitter ça, quitter ce milieu qui ramenait au bistrot, qui ramenait à la cam, qui ramenait à la fête. Donc voilà, là, on dit, on va aller vivre à la campagne, quoi.
J'avais des sous de côté et j'avais acheté un petit combi Volkswagen, aménagé. Alors là, on était indépendants. Et puis, il y a un copain qui nous a dit, moi, je connais un copain d'un copain qui a acheté tout un hameau dans les Cévennes. Là, c'était au sud de l'Ardèche.
Et on découvre une grande falaise, et, donc très, très beau paysage, un peu sauvage, comme ça, avec des perspectives. Il n'y avait pas de barrière, il y avait... ça offrait des possibilités, quoi. Donc, on dit, voilà, ça pourrait être là, quoi. On ne venait pas pour être des agriculteurs, hein, on venait pour être paumés au milieu de la cambrousse et être peinards, quoi. Moi, j'ai lu Robinson Crusoe. Moi, j'ai lu des livres comme ça, et ça fait rêver les gamins, mais moi, j'étais un gosse, quoi. Et c'est parfait. Ceux qu'on appelle les résistants pendant la guerre, c'est des gamins de 20 ans. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas peur, parce qu'ils n'ont pas de gosses, parce qu'ils n'ont pas de famille. Dès que les gens ont des familles et des traites sur le dos, ils ont la trouille, c'est fini. Voilà, donc à 20 ans, on n'a pas peur. Non, on n'a pas peur.
Voilà, ici, on est sur la terrasse des mûriers. Là, tu vois, tu as les arbres ici. Et quand on est arrivé, donc en 73, le seul lieu qui était habitable, c'était une ancienne magnanerie qui est juste là, tu vois. La magnanerie, c'était le lieu où ils élevaient les vers à soie. Et on a mis pratiquement 8 ans pour reconstruire. Donc ici, on est à Bolz. Alors Bolz, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Certains pensent que ça veut dire Bolzem, le sac. C'est comme si une voie sans issue. C'est vrai que voilà, on est au fond de la vallée. Je suis arrivée en 1973, j'avais 20 ans, et je suis toujours à Bolz, je m'appelle Sandrine.
Et pour rejoindre Sandrine Ten et son mari Pascal Waldschmidt, Sarah a suivi une longue route en lacet à flanc de montagne, au-dessus d'une rivière sinueuse. Là, au bout d'un chemin, tel un bout du monde, parmi les murs en pierre sèche, les cultures en terrasse et la clède, ce séchoir à châtaignes typique de la région, on comprend à quel point ces néo-ruraux, comme Sandrine et Pascal, ont su se réapproprier l'histoire du territoire, son patrimoine et ses savoir-faire délaissés. En 1972, on dénombrait 500 communautés environ en France. Et dans ce coin d'Ardèche, la première s'appelait la Blacherette. Elle est située dans une autre vallée que celle de Sandrine, 64 ans, et Pascal, 68 ans. Eux sont restés à Bolz après y avoir vécu en communauté.
Je sais pas, je crois qu'on a passé 2 ans en communauté à défricher, nettoyer, etc. On ne voyait rien du tout, c'était sous les ronces. C'était abandonné depuis la dernière guerre. Donc, comme cette maison là où on habite, où il n'y avait que la façade, c'était une maison qui avait brûlé, donc le toit était tombé, donc les murs n'étaient pas protégés. Et avec les pluies successives, les murs sont tombés. Et quand on était 8, on vivait dans 20 mètres carrés et on dormait dans une petite bergerie qui était à côté. Mais c'était une toute petite bergerie parce que eux, ils mettaient, une dizaine de bêtes, hein, c'était tout petit. Donc il y avait des boxes et on dormait dans les boxes. Et c'était vraiment une période qui était magique parce que tous les jours, on découvrait... On se posait des questions. Comment était organisé le village? Pourquoi il y a un passage là? Pourquoi il y a un pont? Et cette cave, comment on y accède? Etc. Et je ne sais pas, ça devait être en 76 ou 10, peut-être 75. On a invité plein de copains à faire une journée chinoise et on a pioché une route.
Et c'était quoi une journée chinoise alors ?
Une journée chinoise, c'est une journée où on invitait plein de copains à venir travailler. Donc ils venaient avec belles pioches, on mangeait tous ensemble. Et puis on allait dans un autre endroit pour aider les copains qui nous avaient aidés. Donc là on était une trentaine et on a pioché sur 300 mètres le passage d'une voiture. Voilà. Ça a mis une journée. Mais pour nous ça nous a changé la vie parce qu'on montait tout à dos, tu vois, c'était pas possible. Comme on est tout le temps là et que bon, tu vois, bon, c'est un peu là, on est à la retraite et tout, que ça, c'est pas toujours évident, et ben ça fait du bien de reparler de tout ce qu'on a fait. C'est vrai, hein, parce que je m'approche, je me dis, bah, tiens, on a fait tout ça, c'est super.
Je vous propose un petit café, un thé.
Je veux bien un petit café.
Voilà.
Eh bien, je suis arrivé en Ardèche en 1974, dans la vague des néo-ruraux qui est après mai 68, en communauté. Et puis, bon, la communauté, bien sûr, n'a pas duré très longtemps, mais c'était une belle période. Et puis, avec ma femme, bah, on s'est installé agriculteur avec des brebis, des cochons, les châtaignes. Et puis petit à petit, on est sorti un peu de notre trou pour rentrer dans la vie locale, sociale. Et voilà, j'ai fini par devenir maire. Et voilà, maintenant je suis maire de la commune, je suis à la retraite, mais bien occupé par mes fonctions d'élu.
Donc vous êtes maire de Beaumont.
Voilà, de la petite commune de Beaumont, oui. 250 habitants.
Et alors comment vous êtes rencontrés tous les deux ?
Alors, on n'était pas ensemble. Mais on faisait partie d'un petit groupe à Bourg-la-Reine, Bagneux. Enfin, moi, j'étais dans la commune communiste. Eux, ils étaient la commune bourgeoise, en banlieue sud. Et on s'est rencontrés grâce à ce qu'on appelait les maisons de jeunes. Puis après, il y a eu un petit groupe. Moi, j'étais une des plus jeunes dans la communauté. Et quand ils sont partis, j'ai continué un an et puis je les ai vite rejoints.
Donc, vous êtes arrivé au printemps ici.
On a acheté donc à Pâques 73. On y a passé l'été. Alors c'était paradisiaque, hein. Les rues n'étaient pas habitables, donc on avait installé un campement en bas au bord du ruisseau, là c'était vraiment le paradis quoi. Et on est tous remontés à Paris l'hiver pour gagner de l'argent, et on est revenus donc le 22 mars 1974.
Et alors est-ce qu'il y avait une égalité entre les hommes et les femmes ?
Ah, bonne question ! Alors comment dire ? Dans les prises de décision, pas toujours, parce qu'on sentait qu'il y avait quand même deux leaders. C'était deux gars. Et nous, on était quatre filles, mais assez déterminées. Et en tout cas, moi, ça m'a obligée de faire des choses physiquement que je paye très cher maintenant, pour prouver que j'étais capable de le faire. Porter des sacs de 50 kilos, porter des grosses pierres, etc. C'est pas la meilleure façon d'accéder à l'égalité. Pour moi, c'était difficile parce qu'en même temps, je me formais. J'avais 20 ans, j'étais jeune, ils étaient plus vieux que moi. J'avais une certaine admiration pour eux. Donc, j'ai mis longtemps à acquérir mon indépendance et ma liberté de parole et d'esprit. Voilà. Moi, c'est vraiment un souvenir qui était très précieux pour moi parce que c'était pendant 2 ans vraiment l'insouciance totale. C'est pas mon caractère, hein. Je suis plutôt bileuse comme fille. Mais là, je me sentais tellement portée par le groupe, portée par une énergie dans la discussion, dans la réalisation. C'était tous les jours Noël ici. On trouvait des bouts de poterie, on se racontait des histoires, et puis on faisait tellement de projets de qu'est-ce qu'on allait faire, comment on allait vivre, que voilà, c'était mes meilleures années.
Le village, il est tout accroché sur un rocher. C'est une langue de rocher, parce qu'avant, le moindre endroit où il y avait de la terre, on s'en servait pour cultiver. Donc les maisons, on les faisait que sur le caillou. Donc il y avait 3 maisons, donc 3 familles, et qui pouvaient y aller jusqu'à une trentaine de personnes, parce qu'il y avait toutes les générations dedans.
Là, on remonte en fait le hameau de la Blacherette. On va arriver au sommet du hameau.
Voilà, sommet du hameau, puis c'est en même temps le sommet de la colline, donc c'est très venté. On a le village de Tignes juste en face. Puis la vallée en dessous, quand même. C'est sûr que c'est pas par hasard qu'on reste ici. Ça a pu nous arriver par moment d'avoir envie de partir pour des tas de raisons. Mais c'est très très dur de partir d'ici.
Il y a des gens ici, ils sont arrivés, ils sont repartis, ils ont eu peur. C'est dur ici quand même. La montagne et la végétation, le chêne vert, c'est dur. Ça pique, les rochers, le schiste, c'est coupant. Ici, on aime ou on n'aime pas en fait. Mais on peut passer des mois d'hiver, on voit personne, à part les gens du hameau. Et ça, je pense que pour plein de gens, pas voir d'êtres humains, c'est un cauchemar, c'est une angoisse. Et nous, je pense que, autant Monique que moi, c'est On supportait plus la ville parce qu'il y avait, je pense, trop d'humains. Il y a trop de monde en ville, c'est tout. Il faut se remettre à la campagne parce que c'est plus sain. Et voilà.
Alors ici, c'était la bergerie, donc. Voilà, donc là, c'était, il y avait la luzerne partout, là.
À l'entrée.
Alors moi, je suis là depuis 76. En 93, j'ai rencontré Laurent, qui est venu s'installer avec moi. On a décidé de faire un élevage de chèvres. Et mon père et ma belle-mère avaient un élevage de chèvres, mais bon, c'était un peu la fin, quoi.
Robert et Violaine, donc c'est votre père, Monique, oui, et votre belle-mère.
On a travaillé pendant un an, tous les quatre, pour s'habituer, pour... voilà, quand même, ça a été ça, notre apprentissage. Enfin, quand même, quand on sort du boulot, après la traite, et qu'on... voilà. Et ben, c'est magnifique. On a une vue à 360 degrés, presque. Il y a toute la vallée de Latine. Là-bas, il y a Valbel. On voit toute la commune, là. Il y a Tastevin, là-haut, il y a Montselgue. Attends, on va passer par là. Donc là, on va se rapprocher de la maison de Violaine, qui est la maison la plus proche du parking. C'est la seule maison où on peut mettre sa voiture devant, parce que sinon, on a tous des petits sentiers pour accéder à nos maisons. Les caramels, les jaunes. Bonjour Violaine, vous allez bien?
Je suis un peu basse. J'ai découvert en 68 qu'il y avait d'autres gens qui pensaient la même chose que moi. Ça m'a fascinée. Je n'avais jamais imaginé que d'autres gens pouvaient être aussi fous dans leur tête que moi. Et donc, j'ai trouvé ça fantastique. Moi, j'étais éducatrice depuis déjà 10 ans. Les structures d'établissement me pesaient beaucoup. Et puis, j'ai toujours été très attirée par la campagne. Ça aussi, ça a joué au moins pour la moitié de ma détermination à quitter Paris.
Violaine Noël, 76 ans, est l'une des fondatrices de la communauté de la Blacherette.
Depuis le début, il y a eu énormément de visites chez nous. Nous n'étions qu'un petit groupe de base, mais il y avait toujours beaucoup de gens qui tournaient autour, qui venaient pour un mois, pour deux mois, pour six mois. L'utopie, c'était de vivre avec d'autres gens, avec des rapports qui n'étaient pas basés ni sur l'argent, ni sur la puissance de l'un sur l'autre, avec des relations égalitaires. Voilà, ça, c'était notre utopie. Alors, on ne savait rien faire, mais on s'est débrouillé pour vivre ici. Juste après 68, par le journal C comme communauté, nous sommes tombés sur des petites annonces de gens qui cherchaient à s'installer. On s'est rencontrés. Il y avait un couple de Chalon-sur-Marne et nous étions deux couples de Paris. Nous étions très politisés, très très politisés. Donc on suivait absolument tout ce qui se passait au niveau politique. On était très impressionnés par ce que faisait Cohn-Bendit, d'une part, intéressé par ce qui se passait en Chine, les différents socialismes, même si ça ne nous satisfaisait pas du tout, puisque ça nous paraissait au moins aussi contraignant que la société actuelle. Mais c'était intéressant de voir comment toutes les choses étaient en train de se changer dans la tête des gens. Je ne crois pas que nous avions de maître à penser, sauf Bakounine. Ou...
un penseur célèbre anarchiste.
C'était quand même la base de notre philosophie, l'anarchie. Ce qui était le plus riche, c'était les échanges que nous avions pendant les soirées, les longues soirées qui se terminaient tôt le matin. Et au moins, les premiers six mois ont été absolument fantastiques. Parce qu'on a refait le monde pendant six mois. La communauté elle-même a duré cinq ans à peu près. Mais au bout de trois ans, Robert et moi avons décidé qu'on servait un peu trop de papa et maman à tous ces petits jeunes qui avaient 10 ans de moins que nous. Et donc, nous nous sommes installés dans une maison dans le village de la Blacherette. Et il y en a l'idée de devenir un village communautaire, partageant beaucoup, beaucoup de choses, mais pas tous les problèmes, parce qu'ils avaient un peu tendance à tout nous remettre sur les bras. Voilà.
On dit souvent que les communautés, le problème, c'est les histoires individuelles. Par exemple, l'échange des couples dans une société où la libération sexuelle était très forte. Qu'est-ce que vous en dites de ça ?
Moi, je dis que beaucoup de couples se sont changés, ont échangé, on va dire, les uns avec les autres. Mais en même temps, ça a fait mûrir tout le monde. De toute façon, en dehors de nous et de l'autre couple, celui de Chalon, tous étaient beaucoup plus jeunes. Et donc, ils n'en étaient pas à l'âge de décider de fonder des familles, pas du tout. Ils en étaient plutôt à l'âge des rencontres. C'est-à-dire que les garçons étaient vraiment beaucoup trop à la chasse aux filles. Ça, c'est sûr. Mais pas du tout autant que ce qui a été raconté chez les gens du coin qui imaginaient, qui ont fantasmé d'une façon ahurissante en racontant à qui voulait l'entendre qu'à la Blacherette, il y avait un immense lit rond dans lequel nous dormions tous, toutes les nuits, et, avec des échanges de partenaires. C'était ahurissant. Moi, quand j'entendais ça, je trouvais que l'imagination des gens était assez extraordinaire.
Ça devrait être interdit de bêcher, moi, à mon âge. On devrait me mettre en prison. Je suis né en 26, alors comptez.
Wow.
J'ai 92 ans, oui. Oh, oui. On va monter, ouais, là-haut. J'ai bien ma canne, quelque part, je ne sais pas où j'ai laissé ma canne. Les paysans, ça rentre jamais les mains vides. Ça, c'est pour les poules. Je rentre le premier. Là, il fera moins froid que dehors. On sera mieux là, à côté du feu. C'est Noé Chat. Noé, mon prénom, et chat, mon nom. Comme un chat. Oui. C'est pour ça que j'ai beaucoup de chats, c'est un chat. Et moi, ça fait 6. J'ai mes poules, j'ai un chien, j'ai des lapins, j'ai des abeilles. On fait tout, quoi. 12 métiers, 13 misères.
Et comment vous avez vécu, vous, mai 68, Noé ?
Ouf. Ça a été, c'était un peu spécial, mais enfin, c'était les jeunes de la ville qui venaient à la campagne. Oui. On n'y croyait pas trop, on ne savait pas bien qu'est-ce que ça ferait, ça, quoi. Mais il y en a qui sont passés, qui ne sont pas restés, mais il en est resté. Moi, j'étais maire de la commune à ce moment-là, et c'était tous des chômeurs, presque. Ils venaient faire signer leurs feuilles, c'était le jeudi, je crois que j'en mérite ouverte. Tous les jeudis, j'en avais 7 ou 8 qui venaient. C'était jamais les mêmes, c'était toujours des nouveaux qui venaient faire tamponner leurs feuilles. J'y vais, je sais pas, le mieux qu'ils pouvaient. Les gens des choix ne comprenaient pas, ni moi non plus, je ne comprenais pas plus, mais enfin, les gens d'ici étaient méfiants quand même, alors ils ne les fréquentaient pas beaucoup, parce que... Mais moi, il y en a beaucoup qui venaient chez moi me voir, là. Ça fait que... On faisait des veillées, là, n'importe. On jouait aux cartes, on faisait la pelote.
Et vous les appeliez comment, entre vous, ces nouveaux arrivants ?
Les hippies. C'était des hippies, oui. Ils se promenaient avec des robes qui traînaient par terre, ou alors à poil. Oui. Pas cette rivière-là, mais la rivière de la Trobie, là-bas, il y en avait qui se promenaient toutes nues, quoi. Et elles n'avaient pas froid, c'était l'été.
Et vous alliez à la rivière aussi, alors ?
Ah ben, quelquefois, oui. J'allais pour les voir. Oui. Jusqu'à ce moment-là, moi, je croyais que j'étais le dernier à vivre dans ce pays. Je ne croyais pas qu'il y en aurait d'autres. Toutes les maisons du pays, toutes les communes, se sont terminées par un célibataire.
Il n'y avait plus de femmes.
Il n'y avait plus de femmes qui voulaient rester, non. Non. Toutes elles partaient à la ville. Tous les ans, ils se vidaient une maison, ou n'importe. Oui.
Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver.
Les jeunes, encouragés par leurs parents, préfèrent s'en aller, rêvent de la ville, surtout les filles. C'est ce que chante finalement Jean Ferrat dans sa chanson « La montagne ».
Catherine Rouvière est historienne et auteure de « Retourner à la terre, l'utopie néo-rurale en Ardèche depuis les années 60 ».
Mais le poulet aux hormones, effectivement, oui, il parle des gens qui préfèrent rentrer dans un HLM, manger du poulet aux hormones. Alors à l'époque, on disait beaucoup métro, boulot, dodo, c'est-à-dire qu'on n'a rien le temps de faire, on passe son temps au travail, dans les transports, on va loger dans des banlieues dortoirs. Et les néo-ruraux, justement, étaient revenus de ce confort et critiquaient ce confort parce qu'ils s'accompagnaient d'une certaine aliénation, qui était un peu le mot à la mode. Donc, ils vont à la campagne pour retrouver les vraies valeurs et ce qui apporte réellement le bonheur et qui n'est pas forcément la possession des objets. Et ils se sont installés là en recherchant le désert, en fait. Ils recherchaient des endroits vides, finalement, pour bâtir à une petite échelle la société dans laquelle ils aimeraient vivre, en espérant, en souhaitant que l'exemple pourrait faire tache d'huile et puis, finalement, comme ça, arriver à changer l'ensemble de la société. Donc, par le bas, c'est-à-dire commencer par soi-même. Et l'idée, c'est que les changements se répandront par capillarité à l'ensemble de la société. Et quand les néo-ruraux arrivent, c'est une rencontre, et c'est un peu ce qu'a produit aussi mai 68, c'est ces rencontres improbables. Par exemple, parmi ceux qui se sont installés en communauté, on a des néo-ruraux qui ont un profil de classe moyenne supérieure, ayant fait des études, mais il y a aussi des gens qui sont issus de milieux ouvriers, qui se sont rencontrés peut-être sur le pavé parisien, en banlieue parisienne, à la faveur des événements de mai 68. Puis la deuxième rencontre, évidemment, c'est la rencontre avec la population local.
Alors déjà, on s'appelait pas les néo-ruraux, c'est plus tard. Comme on s'appelait les bourrus, les hippies et tout ça.
Et aujourd'hui, pour rencontrer ces néo-ruraux, il faut se rendre dans les marchés du samedi au Vence ou le mercredi à Joyeuse. C'est là qu'artisans et petits producteurs locaux de miel ou de légumes bio tordent le cou à la mondialisation et la malbouffe. Locaux, néo-ruraux et nouveaux arrivants s'y mélangent donc et continuent d'écrire ensemble l'histoire de l'Ardèche, terre des possibles. Un pays cher a honoré Chalvet, l'Ardéchois, et Rona, l'Américaine des Appalaches, âgée respectivement de 80 et 70 ans. Pendant 20 ans, ces paysans militants ont vécu en communauté durant l'été à Malars, sur la Tine. C'est là aussi qu'ils cultivaient plantes médicinales, châtaigniers, pommiers, vignes ou cerisiers sur de toutes petites parcelles.
En fait, je suis venue en France, j'étais à Besançon, et ensuite à Genève, donc je n'étais pas que en France. Et donc à la fin de mon année universitaire genevoise, je suis arrivée à Paris et c'était mai 68. C'était très étonnant pour moi sur beaucoup de plans, mais un des aspects, c'était le mouvement contre la guerre au Vietnam. Et j'avais été impliquée dans cette histoire-là aux États-Unis. J'arrive à Paris, il y avait des drapeaux rouges, je n'en avais jamais vu. Des drapeaux noirs, je n'en avais jamais vu. Des drapeaux du Viet Cong, je n'en avais jamais vu. Des gens qui chantaient Ho 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 Chi Minh. Ça m'a beaucoup remué. Donc finalement, je suis restée. Voilà.
Et vous habitez ici depuis combien de temps tous les deux ?
73-74. Ma première nuit en Ardèche, c'était au mois de mars 73. Donc. Le lendemain, j'ai rencontré Honoré.
Et vous, Honoré, vous êtes ardéchois ?
Ah oui, pur.
Oh, il y a cinq générations, ils étaient en Lozère.
Donc, juste à côté, derrière la montagne, on n'était pas loin. Les vrais, il n'y restait pas beaucoup.
Ah bon, parce que moi, je suis une fausse, peut-être.
Non, mais après, il y a pas beaucoup. Il y a des... Il y a de quoi adopter.
C'est ma vie, après, qui a basculé. Je connaissais un peu les histoires de retour à la Terre aux États-Unis. Et moi, je regardais ça avec un peu d'ironie, parce qu'à la campagne, je connaissais des gens qui allaient s'installer à la campagne. Je trouvais ça un peu douteux. Et en plus... Aux États-Unis, les gens qui partaient à la campagne, c'était plutôt une fuite individualiste. Donc, j'étais tout étonnée de rencontrer des gens qui venaient dans un coin aussi paumé de campagne, qui étaient quand même des militantes, mais ils avaient plein de projets sur le développement rural, etc. Déjà, tout de suite, quand je suis arrivée, bon, j'étais branchée bio, donc j'étais à une association qui s'appelle Nature et Progrès. Donc, je militais surtout là. Et puis, la CANF, ben, c'était les paysans-travailleurs, puis les travailleurs-paysans. Et puis, depuis donc 87, la Confédération paysanne.
Et c'était important pour vous de vivre ici et de militer en même temps ?
Pour moi, oui. Honoré était à la mairie. Il s'occupait de la mairie. Mais oui, pour moi, c'était important. Oui. De toute façon, ça continue. Donc, on a milité contre le gaz de schiste. Là, on a obtenu gain de cause pour la région. Mais pour ailleurs, il y a encore du travail. C'est sans arrêt, des choses où il faut se mobiliser. Puis la vie dans la vallée, enfin... que les gens puissent vivre, que les terres agricoles restent agricoles. Maintenant, moi, je suis au conseil municipal. J'ai pris le relais. C'est un gros problème dans la région. Enfin, tout le sud de la France, c'est un gros problème parce à cause du tourisme. Que les prix ne sont plus du tout ce qu'ils étaient autrefois. Donc, beaucoup de gens sont venus dans les années 70 et ont été attirés par l'Ardèche parce qu'on pouvait trouver une ruine pour pas cher. Maintenant, c'est fini.
Cette arrivée des premières vagues néo-rurales, elle a quand même sauvé certains cantons sur le plan démographique. Donc ça, c'est important. Et surtout, elle a facilité l'arrivée d'autres populations qui ne se sont pas forcément installées en agriculture ou en artisanat. C'est-à-dire qu'elle a créé un espace, finalement, mi-ville, mi-campagne, un autre type d'espace, une certaine façon de vivre qui attire des gens des quatre coins du monde. Il y a aussi toutes les luttes pour le développement local. Notamment, il y avait des projets de barrages qui auraient noyé dans plusieurs vallées d'affluents de l'Ardèche. Et vraiment une mobilisation très importante pendant plusieurs années. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est un cas de finalement intégration par le biais des luttes. Donc solidarité avec la population locale. Alors, il y a eu des luttes aussi anti-nucléaires, mais là, au contraire, c'est plutôt les néo-ruraux qui étaient en pointe. Et ça donne évidemment des résultats qui sont quand même intéressants. Et donc, petit à petit, à partir des années 90, on peut dire que le rapprochement entre les deux populations s'effectue avec la création finalement d'un nouveau métier finalement d'agriculteur. Et qui élargit le métier de paysan à l'aval vers la transformation, vers la commercialisation en circuit court et vers l'accueil. donc beaucoup plus rentable qu'une agriculture qui nécessite de lourds investissements, qui est source d'endettement pour les agriculteurs et qui explique aussi le nombre de suicides, par exemple, très important dans ceux qui sont engagés dans cette agriculture productiviste.
Pour les semences autorisées et pour les interdites, les vivants catalogués et les patrons en fuite. Le sourire de Monsanto et nos cancers à venir, pour le grand sombrero et son ombre qui s'étire, pour nos politiques et pour ceux qui oublient, ceux qui ont la trique de commander nos vies. Une minute de silence.
Il y a eu nous dans les années 70, et puis après il y a eu une vague à peu près vers les années 85 où on sentait que c'était quand même un petit peu différent. C'était des jeunes qui venaient mais qui étaient plus intégrés, qui savaient mieux comment ça se passait au niveau de l'installation pour avoir des subventions, des choses comme ça, qui étaient plus plus technophiles, je sais pas comment expliquer ça. Et puis après il y a cette nouvelle vague de jeunes qui arrive. Bon, il y a des gens qui sont un peu plus âgés, qui ont 40 ans, qui ont eu une vie, un métier, qui ont décidé de changer, donc ils ont un peu les moyens et qui s'installent. Et puis, il y a aussi beaucoup de jeunes de 25 ans, 30 ans, qui ont un projet de vie qui est très lié aux problématiques actuelles sur l'écologie, sur l'environnement, mais dans des démarches beaucoup plus individualistes. C'est-à-dire que bon, ils vont se greffer sur des projets collectifs, mais ils sont pas forcément à l'initiative de ces projets collectifs. Où on sent quand même qu'ils y sont plus, qu'ils recherchent plus à une qualité de vie. Alors que nous, ce n'était pas notre préoccupation. Nous, on était vraiment dans le faire. On avait tout à faire, la maison, l'exploitation, les enfants, assurer le revenu, tous les projets collectifs. On avait des brebis, des cochons, et puis, il fallait en vivre. Et puis, on a eu quelques cochons qu'on a élevés pour nous, pour des gens. Puis, c'est des anciens, enfin, des artichois qui avaient commandé des cochons qui n'ont pas pu nous les acheter parce qu'entre-temps, ils sont morts, ou ils avaient du cholestérol, ils ne pouvaient plus manger de charcuterie. Donc, on s'est trouvé obligé de charcuter nos cochons à la maison, sans électricité. Puis, on s'est aperçu que c'était rémunérateur. Donc, on s'est dit, on va essayer de développer un atelier collectif. C'est ce qu'on a fait. Ça s'appelle les cochons bourrus parce qu'à l'époque, c'était un projet qui était porté par des jeunes hippies et puis quand même des artichois. Et comme les anciens nous appelaient les bourrus, c'était un petit clin d'œil. Voilà. Et donc, c'est un atelier de transformation qui est à Rosières. On a commencé à 7 et maintenant, je crois qu'ils sont 14 ou 15. Ça veut dire que ça perdure, que c'était vraiment une franche réussite. Et c'est grâce à cet atelier qu'on a pu nous assurer notre revenu.
C'était le premier atelier collectif en France de transformation de produits fermiers. Maintenant, il y en a un peu partout, mais on a été les premiers.
Donc, on était tous solidaires pour cet emprunt, mais concurrents, puisqu'on vendait le même produit. On a essayé de diversifier nos réseaux de vente et on a monté la coopérative des bourrons couchus. On était 7 producteurs, il y avait légumes, fromage de chèvre, charcuterie, miel, et donc on faisait de la vente directe, c'est-à-dire qu'on assurait nous-mêmes les permanences, et ça nous a vraiment permis de s'en sortir. C'est-à-dire que on a galéré pendant plusieurs années, mais les 10 dernières années, on a bien gagné notre vie.
Et vous gagniez combien à l'époque ?
À peu près 2000 euros par mois, en bossant vraiment à plein temps tous les deux, en charcutant les cochons, en les vendant, on faisait des framboises qu'on ramassait, et puis tout ce qui concernait la châtaigne qu'on séchait, qu'on transformait. Et les brebis, voilà.
2000 euros à deux ou chacun ?
Non, à deux.
C'était plus que ce qu'on dépensait. C'est-à-dire que les 10 dernières années, on a pu mettre un peu d'argent de côté, ce qui nous permet aujourd'hui de ne pas être dans la misère. Sinon, ouais, voilà. Avec la retraite qu'on touche, on serait dans la misère.
Et on s'est mariés parce qu'on a été obligés par la sécurité, la MSA, pour que Pascal ait un revenu en tant que paysan, on est obligé de se marier. Mais voilà, on l'a fait un petit peu trop tard parce qu'en fin de compte, au bout de 35 ans de vie agricole, j'ai 520 euros de retraite. Donc pour moi, c'est quand même une non-reconnaissance de toute mon activité, même si vraiment j'ai eu beaucoup de plaisir à faire tout ce que j'ai fait pendant 40 ans. Mais bon, c'est vrai qu'il y a énormément de jeunes qui s'installent sur des tout petits projets.
moutons. On a 3 brebis et 1 mâle. Et donc voilà, ça nous fait 3 ou 4 petits par an. C'est un tout petit troupeau, mais c'est juste pour nos besoins personnels en viande. Et puis ils font du fumier, donc les moutons ils nous font de la viande, et puis on a aussi 2 ânes. Et avec les ânes, on travaille en traction animale dans le jardin. Attention, oui, tu mets les pieds. Ici, c'est le bordel. C'est le hangar. Je suis pas forcément très ordonné. Puis comme en plus, je récupère la ferme de mes parents avec du matos, je sais pas toujours quoi faire, que j'ai pas forcément envie de jeter parce que ça peut servir. Donc ça s'accumule. Pas forcément très ordonné. Ah. Cette pièce, c'est tout. C'est le bureau, c'est la cuisine, quand on fait la cuisine. C'est comme vacancier, c'est notre lieu de vie aussi.
T'as perdu ton bracelet.
Ah bah oui, il tombe. Salut, tout le jeunes. Temps celui-là.
Bonjour.
Allez, on va se faire un bon thé, ça va lui faire du bien.
Bon thé divine. T'en veux aussi, toi? Alors, je vais chercher 2 verres.
Je m'appelle Jonas, je suis né à Nîmes, à la maternité, mais voilà, mes parents habitaient déjà là depuis 1973. Moi, je suis né en 79. Et voilà, donc j'ai grandi, j'ai passé toute mon enfance ici. Et mon adolescence. Et petit à petit, je me suis éloigné.
Et alors, comment t'es revenu ici, à la Terre ?
Disons que je vivais ma vie de dessinateur, parce que donc j'ai fait les Arts Déco de Strasbourg. Bon, mais c'était une activité dont je ne tirais pas de revenus. Je publiais dans de la micro-édition, donc des petits tirages. Et je me suis dit ouais, déjà ça me faisait mal au cœur de me dire si quelqu'un reprend ce lieu, peut-être que moi je pourrais plus revenir ici, c'est là où j'ai grandi, enfin, il y avait quelque chose de très personnel. Et je me suis dit après tout, tu t'es toujours dit que c'était bien trop de boulot, mais après tout, pourquoi pas essayer. Et en 2013, officiellement, j'ai repris la ferme avec Lisanne, ma compagne, voilà, parce qu'on est 2. Si j'étais tout seul, ce serait juste, ce serait très compliqué à mon avis.
Et c'est lui qui a choisi, hein, de reprendre ici.
Ça m'inquiétait aussi un peu parce que je savais comment c'était dur et tout. Il avait fait une petite BD quelques années avant parce qu'il venait nous aider l'été. On voyait à la table dehors les gens qui disaient tous « Alors Jonas, tu vas reprendre la ferme de tes parents ?» Et alors lui, on voyait avec des bulles, il ne le disait pas. Mais dans sa tête, il disait « Non mais ils ne se rendent pas compte, c'est un travail de fou !» et tout.
J'ai le sentiment de ne pas forcément avoir tout ce qu'il faut en termes de caractère, de volonté pour gérer quelque chose d'aussi multiple et complexe qu'un lieu comme ça, qu'une ferme qui est aussi un lieu de vie, qui est aussi de l'entretien du paysage, d'accueillir des gens. Enfin, mais en même temps, ce lieu m'apporte tellement au final, et même les jours où c'est dur, où je galère, où il y a trop de couilles qui s'accumulent et où on a l'impression qu'on n'arrive pas à sortir la tête de l'eau, je me dis mais où c'est que je pourrais être aussi bien ? Je suis enraciné là.
Il n'y a pas beaucoup de gens qui acceptent ce genre de conditions, mais il y en aurait encore des jeunes, comme il dit. Il y a des jeunes qui sont prêts à se lancer. Après, il faut qu'ils trouvent le terrain. C'est plus difficile de trouver des ruines maintenant.
Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que le poids du foncier ne repose pas sur les candidats à l'installation, mais soit assumé par la collectivité. Donc, il ne faudrait pas que ce soit des jeunes qui achètent ou des privés qui achètent. Il faudrait que ce soit la communauté qui achète et qui rénove et qui installe. Voilà, et là, ça deviendrait intéressant, quoi.
C'est votre utopie ?
Complètement, quoi. Pour installer des jeunes volontaires, et il y en a. Voilà, le rôle des vieux, c'est de soutenir les jeunes, quoi. Je faut pas les traiter de petits cons, de petits jeunes, etc., qui n'ont pas d'expérience, parce que ce pays a besoin d'être occupé, quoi. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens qui en ont ras-le-bol des villes puissent venir réoccuper les campagnes, parce que c'est des lieux de vie de bien meilleure qualité. Seulement, ils ne sont de qualité que s'il y a beaucoup de gens qui les occupent, et qu'il y a des services publics, et que, etc.
Ce qu'il vous dit là, c'est pas que nous qui le pensons. C'est un des mouvements qui est en train d'éclore, mais sérieusement, quoi. Il y a de l'espoir dans ce domaine, c'est d'ailleurs le seul espoir. On n'a pas d'autre espoir. Soit l'humanité, elle dit, bon, c'est bon, on crève, on n'a rien à foutre, quoi. Hein. Soit on reprend en main et on reprend dès le départ tout le système du vivant à partir de la Terre. Et pour faire ça, il faut des bras, il faut des gens, il faut des gens qui aient envie de ça. Nous, on a appris ça petit à petit, mais on a trouvé des terres qui avaient été envahies par les lapinèdes. Le sol, c'était plus que du minéral, c'est-à-dire qu'il ne poussait rien dessus. Les lichens, voilà. Et il n'y avait même plus une plante. On a mis du compost, on est arrivé à faire des jardins.
Il fallait bien qu'il y ait des gens qui s'y mettent pour réinventer une nouvelle agriculture. Donc nous, on a fait partie de ceux qui s'y sont mis, quoi. Et il y en a plein qui ont réussi. Et pas que dans les plaines fertiles, aussi dans les montagnes comme ici.
L'important, c'est le but, de savoir quel est le but. Et moi, je trouve que la régénération du vivant, c'est un but formidable, quoi.
Le côté que j'aime bien ici, c'est ce côté où les choses ne sont pas verticales, elles sont dans nos vies ici, on ne peut pas être en verticalité, on est plus en horizontalité. Comment je veux dire ça? C'est dans les prises de décision. La verticalité, c'est un petit peu ça que mai 68 n'a pas accepté. Et je crois que l'autogestion est née à ce moment-là. On voulait beaucoup plus de transversalité, que ce soit dans les usines, que ce soit dans les universités, que ce soit un petit peu de partout. Et voilà. Et moi, ici, ça a été possible, ça. Voilà. Ça, cette horizontalité. Même si on est des patrons, même si on est des capitalistes, parce qu'on a acheté des fermes, des exploitations, on fait aussi attention aux salariés, on fait attention à ce qui nous entoure, on fait attention à l'environnement. Mais l'avenir, que ce soit en Ardèche ou que ce soit de toute façon partout pareil, on manque réellement de jeunes qui s'engagent. Vous voulez vraiment mon avis? On est une population de vieux et vivent les jeunes et puis qui nous bousculent un peu, puis qui créent un nouveau 68. C'est ça que je voudrais qu'ils fassent. Et fort. Non, c'est vrai.
À l'approche de la retraite, Jean-François Lalfer, producteur de châtaigne à Malars-sur-Latine, est loin d'avoir renoncé à ses idéaux. Et comme les autres, il a à cœur de les transmettre. Transmettre des terres, déjà, qui souvent cherchent repreneurs, mais aussi un engagement, un esprit de résistance qui, ici, vous l'avez compris, s'incarne au quotidien, dans une vie menée en accord avec le vivant, pour de meilleurs lendemains. Sous les pavés la terre, c'était un reportage de Sarah Lefebvre, enregistré pour les 50 ans de mai 68. Merci à tous ceux qui ont bien voulu lui raconter leurs histoires. Céline Develay-Mazurel, Laure Allary et Sarah Lefebvre, on vous dit à la semaine prochaine. Et d'ici là, on vous souhaite une bonne semaine à l'écoute de RFI. Religion du